Merci de ta présentation. Puis, merci Mario. Mario, c'est un gros morceau pour nous autres parce qu'il enregistre tout ce qui se passe, puis il peut envoyer ça à tout le monde après. Contactez Mario avec dans le chat. Il va tout vous envoyer les mec, on a fini après la semaine prochaine, toutes les 4 semaines des 12 traditions et tous les commentaires. Fait que, merci beaucoup, Mario, d'être avec nous autres. Merci de faire ça pour nous autres. C'est bien important pour nous autres. Fait que lâche-nous pas, Mario. Et moi, je m'appelle Hubal. Je suis un alcoolique. Puis je suis content de le savoir parce que ça m'a permis de connaître un mode de vie qui s'avère être de mieux en mieux de jour en jour. Fait que, je remercie à tout le monde d'être là. Moi, j'ai besoin de vous autres. Moi, pour 30 ans de ma vie, j'ai essayé ça tout seul, puis ça n'a pas marché. Puis les derniers 30 ans, avec vous autres, ça marche. Fait que, je vous remercie infiniment d'être là. Puis lâchez-moi pas. J'ai tellement besoin de vous autres. Si vous voulez bien, on va commencer avec une petite période de méditation. Durant cette méditation-là, on va une pensée peut-être pour les personnes qui devraient être avec nous autres et qui ne veulent pas. Puis aussi les personnes qui voudraient être avec nous autres et qui ne peuvent pas. Fait qu'on va prendre 30 secondes de méditation, puis vous pouvez vous concentrer. Je vais vous avertir avec la période soit finie que vous pouvez vous concentrer sur votre méditation. On commence tout là. Merci. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie de coopérer. J'aime bien ça faire une petite période de méditation parce que souvent, peut-être qu'on l'oublie, on ne l'a pas fait. Puis, juste pour prouver à tout le monde que ça se fait, puis ce n'est pas compliqué la méditation. On a juste à se recueillir puis demander l'aide de notre être suprême qui nous aide à comprendre ce que la vie nous emporte et qui nous aide à supporter ça. Ça devient un mode de vie qui est de plus en plus facile à vivre. Aujourd'hui, on va faire une petite révision des 6 premières traditions. On va dire d'abord de pourquoi les traditions existaient. C'est parce que Bill s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de mouvements qui ont parti avant, puis se sont tous détruits parce qu'il n'y avait pas de guide. Puis Bill s'est basé un peu là-dessus pour faire les 12 traditions. Il a appelé ça les 12 points pour la survie des AA. C'est ça qu'il nous a donné. Et puis, ces 12 points-là, bien, ils ont été acceptés. Au premier congrès international de Cleveland en Ohio, le 29 juillet 1950. Puis depuis, bien, on a appelé ça une tradition parce que c'était des choses qu'on devra faire pour survivre ou pour notre mouvement survivre. La première tradition, mais c'est le thème de l'unité là-dedans. On dit que notre bien-être commun devrait venir en premier lieu, puis le rétablissement personnel dépend de l'unité des AA. Si on veut se rétablir, mais il faut garder AA ensemble, parce que si on perd AA, on n'a pas de chance de s'en sortir. Sans unité, AA ne survit pas. Le groupe doit survivre, sinon les membres mourront. Comme avant 1935, il n'y avait pas de façon de s'en sortir concrète de toute façon. Puis là-dedans, bien, dans nos traditions, on devrait connaître l'organigramme de toutes les tâches de parce que ça part du groupe, des groupes, les membres forment un groupe, les groupes forment des districts, les districts forment la région, puis la région forme un délégué pour aller nous représenter à New York. Puis là, il y a une petite brochure, le groupe des A, là où tout commence, qui nous explique toutes les tâches de base qu'on a dans les A. Ça va nous aider à comprendre puis à élaborer sur chacune des tâches. Ce n'est pas un titre de noblesse, c'est juste la façon qu'on peut rendre service, mais il faut s'informer, puis on ne peut pas prendre n'importe quelle tâche sans connaître les conséquences de ça, parce que tout ça, c'est pour aider l'unité du mouvement. Fait qu'on devra comprendre qu'est-ce qui se passe avant de prendre des tâches. La deuxième tradition, ben, c'est Dieu qui nous guide dans notre conscience de groupe. Ils nous disent, dans la poursuite de notre objectif commun, il n'existe qu'une seule autorité ultime, un Dieu d'amour tel qu'il peut se manifester dans notre conscience de groupe. Nos chefs ne sont que des serviteurs de confiance, ils ne gouvernent pas. En résumé, on dit qu'on doit connaître la force du groupe qui est éventuellement menée par Dieu dans notre compréhension. C'est Dieu qui mène nos meetings d'affaires. Puis, c'est pour ça que c'est important. On doit donc se rallier à la décision de la majorité du groupe, même si l'ensemble s'entend contre ma décision. Peut-être que j'en ai un point et il ne sera pas accepté. Mais je me joins à la décision du groupe. Je ne continue pas à m'entêter. Même si l'ensemble semble contre ma décision, peu importe ma compétence, je me dois d'informer le groupe si je prétends qu'il n'est pas informé sur un sujet particulier, mais je dois me rallier quand même si la motion ne passe pas. Je peux former un groupe, mais je ne peux pas en être le propriétaire. Oh, ne punit pas, n'impose pas d'amende, puis tout ce qu'on fait, on nous demande de s'unir. Okay? L'expérience nous a fait comprendre que notre conscience de groupe, bien éclairée par les anciens qui connaissent leur tradition, se révélera plus sage que tout autre meneur individuel. C'est bien important qu'on comprenne ça quand on voit des meetings d'affaires, qu'on comprenne ce qui se passe là, et puis que si ma motion ne passe pas, bien, je me rallie. C'est ça qui est une des choses les plus importantes parce que on s'est toujours guidé par notre aide suprême, Dieu de notre compréhension. La troisième tradition est basée sur qu'on refuse aucun alcoolique. Des fois, on entend parler de monde, n'importe qui peut être joint dehors, mais si tu n'as pas un problème avec l'alcool, bien, tu ne peux pas réellement joindre dehors parce que c'est fait pour le monde qui a des problèmes avec l'alcool. Le désir d'arrêter de boire, c'est la seule condition pour être membre d'AA, mais pour ça, il faut que tu aies un problème d'alcool. Hein? Dès que tu dis membre d'AA, tu l'as. Il n'y a pas de forme à remplir, il n'y a pas rien à signer. Hein? Mais tu dois, pour ça, avoir un problème quand tu consommes. C'est la seule requirement, si tu as un problème quand tu consommes, bien, tu peux devenir membre d'AA, n'importe quand. Il y a une brochure aussi qu'il demande d'avoir. Autre problème que l'alcool, puis aussi dans le langage du cœur, il nous parle de ça à page 233-237. Donc, la seule condition, puis si quelqu'un a une double dépendance, il est bienvenu chez AA. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs fraternités qu'on peut lui suggérer. Puis si leur dépendance principale, ce n'est pas les alcooliques, ce n'est pas l'alcool, bien, on va peut-être les informer, peut-être qu'à le voir dans d'autres groupes pour qu'ils puissent s'identifier. Parce que si un narcomane s'en vient avec l'alcoolique anonyme, qu'il n'y a pas de problème de boisson, il va être bien de misère à s'identifier. Puis s'il ne peut pas s'identifier, bien, il va aller mourir dans son addiction. Fait que c'est important qu'on les guide à la bonne place et qu'ils comprennent. Puis s'il y a une double addiction, bien, quand tu viens des salles dehors, bien, tu te présentes comme un membre des alcooliques anonymes. Okay? Et puis qu'ils nous disent, en tant que groupe, on ne peut pas être affilié à aucun autre organisme. En tant que groupe, je ne peux pas faire partie des narcomanes ou d'une religion ou d'un groupe politique. Puis on a là-dessus encore dans une brochure dans le groupe DA, ils nous parlent de ça. Puis ils nous disent, si un narcomane qui n'est pas alcoolique peut ne pas pouvoir s'identifier et mourir au lieu de se rétablir. Ça fait que c'est important que chacun soit dans son dépendance de principale pour être certain qu'il peut recevoir tout le traitement qu'il peut faire. Puis aujourd'hui, bien, à peu près toutes les dépendances, ils ont un mode de vie en 12 étapes. La quatrième tradition, elle nous dit qu'on a le droit à l'erreur. On garde la fonction des groupes, puis on doit garder la fonction des groupes uniformément dans tout le monde entier. En résumé, c'est la tradition qui nous permet de faire des essais et erreurs. Et qu'avec une conscience de groupe éclairée, c'est une conscience de groupe qui connaît la tradition, on peut se ramener au statu quo si on erre. Bill, il nous donne le droit de faire des erreurs. Parce que Bill, il nous explique dans cette étape-là, cette tradition-là, que si on s'en tient tout le temps au statu quo, bien, AA ne sera jamais meilleur qu'il a été inventé. Puis si on essaye des choses, si on fait des erreurs, peut-être qu'on va améliorer AA. Mais on a aucune chance d'améliorer son sentiment au statu quo. Si on fait des changements et on s'aperçoit que ça nuit au lieu d'aider, on en revient au statu quo. On a ce droit-là à l'erreur. La tradition qui nous permet, c'est ça. Avec une conscience de groupe éclairé, on peut se ramener au statu quo. On se doit de conduire notre groupe comme l'ensemble des groupes du monde. Pour ne pas nuire au mouvement, on essaie de faire ça que ça se ressemble, qu'on soit en France, au Canada, en Chine, les meetings devraient tout, on devrait se reconnaître qu'on a dans n'importe quel meeting des alcooliques anonymes, même si ce n'est pas de notre langue. Il existe aussi des lignes de conduite venant des services généraux qui vont nous guider là-dessus. Indépendamment de la religion, tous les membres devraient pouvoir se sentir chez eux. Donc, nous devions terminer et commencer la réunion par une invocation qui n'a pas de caractère religieux. Hein. C'est préférable, on a une belle déclaration de la responsabilité ou la déclaration de l'unité qui est approuvée par nos services généraux. C'est une très belle façon de commencer ou de finir le meeting. Puis de même, ça n'empêche pas personne, qu'il y ait n'importe quel caractère, n'importe quelle religion, d'être membre puis se sentir chez eux. Notre groupe ne peut pas s'identifier par un nom religieux, un nom sans cotation, quel que soit. Notre groupe, quand le groupe est approuvé par le BEG, il est approuvé avec un nom qui fait du sens pour AA, qu'on ne peut pas avoir un groupe qui a un nom qui a un caractère religieux ou un caractère politique là-dedans. La cinquième tradition, le but principal, c'est d'aider l'alcoolique qui souffre encore. C'est le but principal de tout notre programme. Puis Bill a décidé de faire une tradition de ça pour être certain qu'on s'en rappelle. Chaque groupe n'a qu'un objectif primordial, transmettre son message à l'alcoolique qui souffre encore. Puis c'est pour ça qu'on devra faire partie d'un groupe, puis être certain que notre groupe donne tout ce qu'il faut pour transmettre le message à l'alcoolique qui souffre encore. Que l'alcoolique soit nouveau ou qu'il soit un ancien, il n'y a pas lui qui souffre, puis il faudra dans chaque groupe qu'on peut aider ces gens-là, qu'on soit séropé en conséquence de ça. Que vous soyez nouveau chez EO, que vous êtes membre depuis 50 ans, le message à transmettre, c'est toujours le même. C'est comme résultat des étapes, vous pouvez être joyeux, heureux et libre sans avoir à consommer quelle que soit votre dépendance. On n'est pas obligé d'aller là. Si on est joyeux, heureux et libre, on n'a pas à aller là. Les membres des AA sont libres. Personne n'est à l'abri de la souffrance. Souvent, un nouveau peut aider un membre qui a plus de temps d'abstinence que lui, ou l'inverse. Fait qu'on a des filles, c'est correct de les appeler des fois si on ne file pas bien, puis peut-être qu'ils vont nous aider si on n'a pas de parrain pas disponible, ou même s'il l'est. On peut parler des membres qui ont moins d'expérience que nous autres. Souvent, juste les entendre, ça va nous aider. Les membres des AA sont liés par une obligation commune, celle d'aider l'alcoolique qui souffre encore, indifféremment de leur temps. Leur souffrance et leur rétablissement constituent un héritage qu'on peut garder seulement en le redonnant. Si moi, je ne fais pas d'effort pour aider les autres, il y a des choses, grosses chances que je vais perdre ma sobriété. Puis c'est la dernière chose que je veux perdre. Il faut que je sois certain que je participe dans mon groupe, que je participe à différents événements, à différentes choses. Pas tout le monde peut faire les mêmes choses. Il y a toujours de quoi qu'on peut faire dans le groupe ou autour du groupe. On doit aussi s'abstenir de s'affilier à d'autres associations comme groupe pour ne pas dériver de notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est d'aider l'alcoolique qui souffre encore. Fait qu'on soit indépendant, narcomane, religieux, politique, on n'a pas d'affaire là-dedans. On s'en fout seulement des alcooliques anonymes ou l'alcoolique qui souffre encore. Puis chaque groupe, chaque groupe qui prend les 12 étapes, bien, ils vont aider deux personnes malades dans ce domaine-là. Excusez les mots pas parfaits. La sixième tradition nous dit qu'on peut-tu être propriétaire ou locataire? C'est sur ça que la sixième tradition est basée. Un groupe ne devrait jamais endosser ou financer d'autres organismes, qu'ils soient apparentés ou étrangers au haut, ni leur prêter le nom des alcooliques anonymes, de peur que les soucis d'argent, de propriété ou prestige ne nous distraient de notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est d'aider l'alcoolique qui souffre encore. On n'a pas à s'en faire avec des propriétés et toutes sortes de choses qui n'ont pas de rapport avec nous autres. Puis on ne peut même pas aider à d'autres à former ça, parce que pas en tant que groupe, en tant que personne, quand je suis en dehors de ça, je peux aider n'importe qui. Mais en tant que groupe des alcooliques anonymes, on s'en tient strictement aux alcooliques. Un groupe ne devrait jamais avoir un immeuble. Le groupe des AA ne possède pas de propriété. On doit louer une location pour être à l'abri des décisions menées par le groupe. Le propriétaire de la location peut être un alcoolique, mais ne peut pas être admis dans notre conscience de groupe. On a vu ça, nous autres, dans notre région ici, un propriétaire de groupe, de la bâtisse, puis qu'à tout bout de champ, il disait, moi, que les mettre dehors, puis c'est lui qui était à conscience de groupe, puis il marchait tout. Puis aujourd'hui, mais le groupe n'existe plus. Mais on ne peut pas faire ça, c'est contre les principes, c'est contre les traditions d'avoir quelqu'un qui nous loue une location ou qui a une propriété qui est sur notre conscience de groupe. Un groupe ne peut pas s'associer à aucune autre association, quelle qu'elle soit, ni même les laisser invoquer leur association au groupe. Qu'elle soit politique, religieuse, raciale, si bonne soit-il de choses, il n'y a pas d'affiliation. Si quelqu'un forme un groupe de quelque sorte que ce soit, que ce n'est pas AA, mais il ne devra pas utiliser les cotations de AA là-dedans. On parle souvent, dans les États-Unis, ça existe beaucoup, les salles Alano, O-L-L-O-N-O. C'est des salles qui ont formé, c'est un groupe. Normalement, c'est des groupes de, des membres de AA qui forment une association qui peuvent sous-louer des salles. Puis souvent, ils ont des petits restaurants ou quelque chose là-dedans pour qui peuvent avoir des membres qui ont soin de ça. Et on appelle ça des clubs. Si on veut un club, ne peut pas s'appeler AA, ni être associé à un groupe. Comme il y a du monde, j'ai vu des clubs qui appellent ça le domaine des 12 étapes, mais on n'a pas le droit de faire ça. Oh, il va-tu nous poursuivre? Si on fait ça, oh, on ne poursuit pas. Mais par respect pour oh, on ne devra pas appeler notre club un nom qui reflète les oh. Mais il peut être mené par des alcooliques en respectant encore une fois les lignes de conduite du club que les services du généraux vont nous faire parvenir sérieusement. Ça complète nos 6 premières étapes. En 7e étape, tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins et refuser les contributions de l'extérieur. On va les lire dans le langage du cœur, la page 91 et 92, moi je prétends que c'est des bonnes références. La page 91, on nous dit « Notre croissance se poursuit et le revenu combiné de tous les membres atteindront bientôt l'incroyable total d'un quart de milliard de dollars par année. » C'est la conséquence directe de notre appartenance au mouvement. Sobre, nous pouvons maintenant faire ce qui est impossible quand nous étions ivres. On parle de dollars là-dedans, mais les dollars qu'ils mentionnent, c'est dans les années 30 ou 40. Fait qu'aujourd'hui, c'est certain que c'est 10 fois plus ou 20 fois plus. Fait que si je vous donne des numéros, ça ne veut pas dire que c'est à date, ça, parce que ça n'a pas été réimprimé le langage du cœur. En comparaison, les dépenses globales du mouvement sont minimes. Par exemple, le bureau des services généraux nous coûte actuellement, c'est marqué 7,5 piastres ou 4,5 piastres par membre, mais je pense que c'est au-dessus de 10 $ par membre que ça coûte au bureau des services généraux pour nous administrer. En fait, le bureau de New York demande au groupe cette somme 2 fois par année, car tous les groupes ne contribuent pas. Il y a beaucoup de groupes qui ne contribuent pas, ne sont pas capables, fait que ceux qui ont plus d'argent vont demander qu'ils en donnent plus au BG. Ça ne fait quand même qu'une très petite somme par membre. Dans les grandes villes où un bureau d'intergroupe est absolument nécessaire pour s'occuper de nombreuses demandes de renseignements, on peut nous coûter peut-être 50 piastres par année chaque membre. Pour payer le loyer de la salle et se réunir, son groupe, et aussi sans doute le café, mais les bains, si c'est le cas, ils mettent peut-être, ils marquent 25 $ par année, là, mais c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui pour survenir aux besoins. Oui, s'il fait partie d'un club, ça pourrait être plus. Et s'il lit la revue Grapevine, mais c'est encore une autre dépense à part. Par conséquent, les membres de haut qui prennent vraiment des responsabilités envers son groupe risquent de débourser environ. Je m'excuse, il faut juste fermer ça, là. Je suis sur mon groupe, là. Je peux-tu te rappeler après, France? As-tu le bon numéro? OK. Excuse. Par conséquent, les membres qui prennent vraiment des responsabilités avec leur groupe risquent de débourser quelques dollars par mois en moyenne, alors que son revenu qui résulte directement de la sobriété se situe probablement, il maxe entre 200 puis 2 000, mais le revenu moyen d'une personne, c'est au moins 2 000, puis non jusqu'à 20 000 piastres par mois. Mais, diront certains, nos amis veulent nous donner de l'argent pour meubler notre nouveau club. Notre groupe est nouveau et petit. Nous sommes encore sans le sou pour la plupart. Alors, que faire? Quand un groupe commence, c'est certain qu'il y a besoin d'aide. Je suis sûr que des milliers de membres répondront aujourd'hui à ce nouveau groupe de façon suivante. Oui, nous savons ce que vous ressentez. Nous aussi, nous avons déjà sollicité de l'argent. Nous avons même fait appel au public. Nous pensions être capables de faire beaucoup de bien avec l'argent des autres. Mais nous avons trouvé cet argent trop dangereux car il suscitait d'incroyables controverses. Ça ne valait pas tout simplement la peine. On n'a pas à aller solliciter de l'argent d'en dehors. C'est seulement par nos membres. S'il y a des non-membres qui viennent des meetings, bien, ils n'ont pas à rien donner, surtout pas prendre de contribution d'eux autres. De plus, ça a créé un précédent et plusieurs personnes ont tenté de servir du précieux nom des alcooliques anonymes pour d'autres fins que celles du mouvement. Un petit prêt amical ne pourra pas faire de tort si votre groupe a vraiment l'intention de rembourser, Mais nous prions d'y penser deux fois avant de demander un gros don à l'ami de mieux disposer. Peut-être qu'on forme un nouveau groupe, puis il y a quelqu'un dans le groupe qui est un petit peu plus à l'aise que d'autres, puis il nous suggère qu'il va mettre l'argent d'avance pour puis le remettre à mesure quand on souhaite de l'argent. Il n'y a rien de mal à ça, mais il faut être certain qu'on agit dans le bon ordre d'idée. Vous êtes capable de payer vos propres dépenses et vous arriviez bientôt. Pour chacun d'entre nous, ces frais généraux ne représentent guère plus par mois que le prix d'une bouteille. Une bonne bouteille de whisky. Puis on ne pense pas à ça souvent. T'sais. Mon parrain me disait tout le temps, si tu mal pris ta première consommation dans la septième tradition, tu ne le prendras pas. Aujourd'hui, une consommation, bien, il y a longtemps que je parlais d'un bar, là, mais je me suis fait dire que c'était entre 5 et 10 $. Pourtant, je vais au meeting, puis il y a du monde qui donne encore 1 $ ou 2 $, puis pourtant, ils prennent du café, puis il y a beaucoup de. On ne pense plus à ça, on n'évolue pas avec ce que la valeur de l'argent a. Vous serez éternellement reconnaissant d'avoir rempli vous-même cette petite obligation. En y réfléchissant, chacun de nous devrait se dire, nous, Léa, avons déjà eu un fardeau. Nous avons déjà été un fardeau pour tout le monde. Nous étions des profiteurs. Maintenant que nous sommes abstinents et que nous sommes devenus, par la grâce de Dieu, des citoyens responsables, pourquoi ne pas faire volte-face et commencer à être des donneurs reconnaissants au lieu d'être des gens qui prennent avantage? Il sera grandement temps. Je vais marquer une petite note là, que notre participation devrait ou pourrait être de 20 à 50 $ par mois. C'est un montant minime parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille en bas de 20 $ de l'heure. Si on donne 20, 1 heure d'ouvrage par mois, ben, ça va faire au moins ça. Après ça, on va aller dans le 12 par 12 à la page 218. Il nous parle de la septième tradition. Les groupes de haut doivent se supporter financièrement eux-mêmes avec les contributions volontaires de leurs membres. Nous croyons que chaque groupe doit atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a un membre qui a un peu plus d'argent. Il va mettre l'argent pour le premier mois ou deux mois, puis ramener le café ou quelque chose, puis éventuellement, on va leur payer. Nous croyons que chaque groupe doit atteindre son objectif le plus rapidement possible. Il est dangereux d'utiliser le nom des hauts pour quelques sollicitations de fonds auprès du public, que ce soit fait par des groupes, des clubs, des hôpitaux ou des organismes extérieurs. J'ai connu, moi, dans notre région, des gens qui ont parti des clubs et puis qui ont été sollicités, les quincailleries et tout, pour avoir des biens. C'est pas ça qu'on fait, on n'a pas le droit de faire ça. Nos traditions nous empêchent de faire ça. Il est imprudent d'accepter des dons considérables, quelle qu'en soit la source, ou des contributions comportant quelques obligations que ce soit. De même, nous trouvons très inquiétant les trésoreries de certains groupes qui continuent d'accumuler des sommes qui dépassent leurs besoins justifiés et continuent plus qu'une réserve prudente. Réserve prudente, le BIAG nous conseille d'avoir pas plus que 3 mois d'avance de dépenses. On peut facilement évaluer ça. Puis s'il y a de plus, bien, on l'envoie au district. Le district l'envoie à la région. Puis la région l'envoie aux services généraux. L'expérience nous a démontré que rien n'est plus susceptible de détruire notre héritage spirituel que les disputes futiles sur les questions de propriété, d'argent et d'autorité. Fait que c'est ça que ça nous dit. On va faire un petit résumé de ça, la septième tradition. Comme indiqué à la première tradition, je dois connaître tous les échelons de l'organigramme des AA. L'organigramme, c'est tout ce qui est comment c'est formé, ça, avec les groupes, les districts, les régions, jusqu'au BAG. Pour que je sois au courant comment ça marche, pour que je sois capable de contribuer, être certain que si le district est déficitaire, mais que les groupes veulent donner un petit peu plus, puis les régions sont déficitaires, on en donne un peu plus, puis ça y est à nos régions, puis finalement, ça en est au BAG pour l'alcoolique qui souffre encore avec tout ce que ça coûte là-bas. Je dois connaître tous les échelons. Et comme membre, je dois m'assurer que je fais tout ce qui m'est possible pour contribuer à leur financement. Peut-être qu'au début, je n'avais pas d'argent. Je mettais 10 cents dans la chaupe. Aujourd'hui, bien, je devrais mettre 10 piastres quand la septième tradition passe. Mais à chacun sa valeur. Mais on devient beaucoup gratteux quand on rentre dans AA. On a dépensé de l'argent frivolement n'importe quand. Puis aujourd'hui, on est dans AA. Si on donne de l'argent aujourd'hui, c'est grâce à AA. Mais quand la septième tradition passe, on dirait qu'on oublie ça. J'en vois souvent mettre encore des scènes là-dedans, puis ça n'a pas sa place. Et si on peut pas, si c'est plus ce qu'on peut faire, c'est bien correct aussi. On n'a pas à juger personne, mais quand on fait un peu mieux, on donne un peu mieux. Je dois contribuer généreusement à mon groupe de tâches. Mon parrain suggérait de donner à la contribution du groupe la valeur de mon premier verre. Mon parrain m'a toujours dit ça. Hubal, si tu donnes la valeur de ton premier verre à la septième tradition, tu ne le prendras jamais. Le BSG suggère de leur envoyer chaque année la valeur d'$1 par année d'abstinence que j'ai obtenue. Si moi j'ai 30 ans d'abstinence, ben chaque année, je devrais envoyer au moins 30 piastres là. Puis, ils nous suggèrent souvent de donner le double parce qu'il y en a plusieurs qui ne le font pas. Fait que je peux envoyer un chèque directement au BSG. Puis, il y a des enveloppes dans presque tous les groupes pour nous permettre de faire ça. Le BSG suggère que le groupe garde en réserve la valeur d'environ 3 mois de dépenses. Le BSG essaie de maintenir une réserve prudente d'un an maximum. Pour eux autres, ils font jusqu'à un an. Je sais que dernièrement, il n'y avait pas un an, puis avec là, la COVID, je ne sais pas exactement comment ils s'arrangent. C'est certain qu'ils ont moins de dépenses. Les dépenses de base sont toujours là. Fait que si on donne de l'argent, nous autres, on a pas fermé notre groupe, on l'a mis en veille, puis il y avait à peu près 500$ dedans, puis on a malé ça au BSG pour, en attendant que le groupe rirouvre. Chacun peut faire de la façon qu'il veut, mais c'est certain, il faut que le BSG survive. S'il ne survit pas, mais on va tout tomber. Puis c'est notre job à tous nous autres. Si on a de l'argent trop, de l'argent qu'on peut sortir, on va être certain que ça se rend là. Pour garder notre mouvement intact, le BSG, c'est le Bureau des services généraux, c'est le BSG, nous avise de ne pas accepter de contribution de l'extérieur, c'est-à-dire des non-membres. S'il y a quelqu'un qui vient puis qui il trouve notre mouvement bien bon, puis il trouve que c'est bon, puis on fait de la bonne, puis il veut nous donner 1 000$, je dis non, on ne prend pas l'argent de l'extérieur, on ne prend pas l'argent des gens qui ne sont pas membres des Alcooliques anonymes. Bien important. Puis aussi, il nous indique de contribuer un maximum par année. Et par notre testament. Dans notre testament, on peut donner, comme c'est là, un maximum de 10 000 $ Puis par année, c'est au moins 5 000 mais peut-être c'est 10 000 aussi que je peux donner, envoyer au BSG, mais il y a un maximum que je peux envoyer là, personnellement, par année. Les dépenses du BSG sont d'environ 2 millions par mois. Fait que c'est de la grosse argent, ça, mais si on est 2 millions de membres, ils nous disent qu'on est plus que 2 millions de membres, si chacun envoie $1 par mois, on n'a pas de problème à payer ça. Ça a l'air d'un gros montant. Ça l'est aussi, mais il faut contribuer là-dedans. Puis est-ce que je peux donner un peu plus que celui qui ne peut pas ou dois-je espérer que quelqu'un d'autre le fasse? Si moi, j'ai un 10 ou un 20 trop quand la septième tradition passe, bien, je le mets dedans parce qu'il y en a qui ne peuvent pas, ils n'ont pas l'argent. Surtout dans les temps comme on a là, c'est encore pire. Fait que je donne ce que je peux. Puis il y a des meetings qui aujourd'hui qui sont ouverts, qui ne passent même pas cette tradition. Je suis allé partager ça, me passer dans un groupe. Puis il y a un panier en avant, puis ceux qui peuvent, ils peuvent mettre de l'argent dedans. Fait que je suis allé mettre de l'argent dedans, puis il y en a d'autres qui n'avaient mis avant moi. Puis hier, je suis allé dans un autre meeting, les autres, ils passent encore la septième tradition. OK, est-ce que je peux donner? Est-ce que je prends conscience des finances de mon groupe? Je suis au courant, je devrais faire partie du groupe, être au courant comment que ça marche, puis j'ai un droit de parole là-dedans, puis être certain que mon groupe ne garde pas plus que 3 mois d'avance, et puis qu'on envoie le reste de l'argent. Il faut que j'aie sa conscience de groupe pour ça. Si le BG a besoin d'argent, est-ce que je peux y contribuer? Y a-t-il un effort que je peux faire spécial pour avoir de l'argent au BG dans les moments de COVID? Bien, si je peux, je vais le faire. Puis une question que j'aime bien, c'est est-ce que j'ai de la gratitude quand la septième tradition passe? Moi, j'entends tellement de monde. Moi, j'ai tellement de gratitude pour avoir. J'ai tellement. Puis la septième tradition passe, puis servir de bord. T'sais? La gratitude, ça se représente en argent aussi. Hein? Parce que sans argent, on ne peut pas passer à travers. Okay? Après ça, bien, suis-je conscient que sans les A, je serais fauché? La plupart de nous autres, on arrivait à A, on n'avait pas de job, on était complètement dépassé. Puis aujourd'hui, on s'est replombé, on a un emploi, on gagne le bon argent, et puis on oublie peut-être que, il n'y a pas tellement longtemps, je n'étais pas capable de me faire vivre. Puis aujourd'hui, bien, grâce à A, bien, comment je remets bien, en donnant la septième tradition? C'est une des façons, en tout cas. Après ça, notre huitième tradition, septième tradition, peut-être que je ne l'ai pas dit, c'est basé sur où va l'argent, puis ce que je me dois de payer. C'est ça, la septième. La huitième, c'est qui peut, puis qui doit être payé dans les A. Comment on dépense l'argent dans A. Le mouvement des alcooliques anonymes devrait toujours demeurer non professionnel, mais nos centres de services peuvent engager des employés qualifiés. Si j'emploie des employés qualifiés, il va falloir que je les paye en conséquence. C'est ça qu'il faut que je comprenne. C'est que ce n'est pas la deuxième étape quand on a quelqu'un qui fait la comptabilité ou qui fait qu'est-ce que ce soit. Fait qu'on va aller lire là-dedans avant de faire un résumé. Dans le langage du cœur, page 92-93, il y a deux belles pages là-dessus. Là. Après ça, on lira un peu dans le 12 par 12. Les alcooliques anonymes du monde entier mettent la deuxième étape en pratique auprès des milliers de nouveaux candidats tous les mois. Un ou 2 000 d'entre eux adhèrent dès la première rencontre et l'expérience demande que presque toutes les autres viennent plus tard. Presque sans organisation et sans aucune aide professionnelle, ce puissant courant spirituel passe maintenant des alcooliques rétablis aux alcooliques malades. Un alcoolique qui parle à un autre, tout simplement. Ce grand face-à-face vital pourrait-il un jour devenir une activité professionnelle ou même organisée? Non, sûrement pas. La deuxième étape, ça ne se fait jamais professionnellement. Les rares tentatives de donner un caractère professionnel au travail de 12 étapes ont toutes échoué rapidement. Aujourd'hui, aucun membre n'accepte que les A puissent avoir des thérapeutes ou des organisateurs rémunérés. Aucun membre non plus n'aime se faire dire comment s'y prendre avec un nouveau candidat. Non, jamais les professionnels ou les bonnes âmes à salaire ne pourront indiquer ce grand courant de vie. Jamais le mouvement ne s'occupera de sa propre bouée de sauvetage. Nous sommes unanimes sur ce point. Quand on vient à la 12e étape, il n'y a pas question de se faire payer pour aucune considération. Par contre, ceux qui remplissent d'autres fonctions pour nous à temps plein, comme les cuisiniers, s'il y a quelqu'un dans les clubs, les concierges, les secrétaires, d'intergroupe, des professionnels, au BEG, ils ont des avocats, ils ont des comptables, ils ont toutes sortes de différents des gens qu'il faut qu'ils se fassent payer. Parce que nous n'avons pas d'idée claire à ce sujet, nous nous comportons souvent envers eux comme s'ils l'étaient. Subtilement, ils ont taxé de professionnalistes de sorte qu'on entend souvent dire qu'ils font de l'argent avec les A ou qu'ils font du mouvement un organisme professionnel. Apparemment, parce qu'ils prennent nos dollars, ils ne vont pas vraiment partie du mouvement. Parfois, nous allons plus loin. Nous les sous-payons sous prétexte qu'ils devraient être contents de cuisiner à bas salaire pour les A ou à remplir. Au BSG, la façon qui fonctionne, c'est qu'ils s'informent autour d'une grande compagnie comment est-ce qu'ils payent le comptable, comment est-ce qu'ils payent les avocats. Et puis, A, normalement, fait une moyenne de ça, puis ils payent un salaire moyen. Mais il y a beaucoup de dépenses à New York. C'est certain que ça coûte cher, les comptables, les avocats, puis les secrétaires, puis tout ce qu'ils ont besoin pour faire le roulement de là. Mais quand on parle de 12e tradition, c'est pas ça. Mais quand on envoie des livres, ça prend toute une équipe pour faire ça, puis les gens devraient être énumérés en conséquence. N'est-ce pas pousser un peu loin notre peur du professionnalisme? Si ces craintes augmente trop, c'est un saint ou un incapable pour retravailler pour les alcooliques anonymes. L'offre de saints étant plutôt réduite, nous le trouvons sûrement avec moins de travailleurs compétents qu'il en faut. Il n'y a pas de saint, c'est pas la tâche, c'est pas ce qu'on veut de faire l'ouvrage pour rien. On emploie avec du monde, on les paye raisonnablement. Nous commençons à nous apercevoir que quelques employés remplissent seulement des tâches que nos bénévoles ne peuvent pas assurer en permanence. Et surtout, ils ne font pas de 12e étape. Ils se contentent de favoriser et d'accroître les possibilités d'en faire. Nos secrétaires à leur bureau constituent des précieux points de contact, des sources de renseignements et d'agents de relations publiques. Elles sont payées pour cela et pour rien d'autre. Elles aident à transmettre la bonne nouvelle au mouvement à l'extérieur et nous mettent en contact avec nos nouveaux candidats. Il ne s'agit pas de thérapie A, mais d'un énorme travail très nécessaire et souvent ingrat, qui prépare la 12e étape, mais qui ne la font pas. Alors, changeons donc notre attitude envers ceux qui s'occupent de nos services. Traitons-les comme des associés, non comme des domestiques. Payons-les équitablement et surtout, ne les accusons pas de professionnalisme. De plus, ne confondons pas organiser le mouvement et mettre en place de manière raisonnable, efficace, quelques services essentiels pour les communications et pour la transmission du message. De cette façon, tout ira bien. 1 million d'alcooliques encore malades pourraient profiter de la même chance que les 60 000 membres des AA ont eu. En ce temps-là, il y avait 60 000 membres. Aujourd'hui, on est plus de 2 millions. Donnons à nos bureaux de services le coup de main qu'ils méritent. Partout, puis tous ceux qui devraient être payés dans A, c'est ceux qui font des tâches que les non-AA pourraient faire. Ça ne veut pas dire qu'on va souvent donner la préférence aux membres AA parce qu'ils sont déjà dans cette mentalité-là. Mais tous les jobs qui sont payés, c'est des jobs qui peuvent être faits par les non-AA. On va aller dans le 12 par 12, la page 218. J'aime ça lire ce qui est allé là, là. Les groupes de A doivent se supporter financièrement eux-mêmes avec les contributions volontaires de leurs membres. Nous croyons que chaque groupe doit atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Il est dangereux d'utiliser le nom des A pour quelques sollicitations de fonds auprès du public. Bon, c'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Je vais aller page 190 à 196. Excusez, je m'excuse, je ne sais pas. Ça ne va pas être la bonne page. Je ne vais virer pas tout ça. Je vais faire sauter des paragraphes de la 8e tradition. Il nous dit encore une fois, le mouvement des alcooliques devrait être toujours demeuré non professionnel, mais nos centres de services peuvent engager des employés qualifiés. On peut engager, puis on doit engager des professionnels pour faire l'ouvrage qu'il y a à faire, qui n'a pas de rapport avec la 12e étape. Nous avons découvert qu'au niveau professionnel, l'argent et la spiritualité ne font pas trop bon ménage. Quand un membre accepte d'être payé pour avoir un entretien seul à seul avec un nouveau ou devant un groupe, il peut aussi se rendre lui-même un très mauvais service. Je n'ai pas le droit. Là, ce que je fais à soir, c'est du service que je fais. Je n'ai pas le droit de me faire payer. Si j'ai des dépenses et que je ne suis pas capable de couvrir ou que je devrais, peut-être que je vais demander un cachet, mais ça va être simplement pour payer les dépenses accourues que je ne peux pas payer. Les concierges chargés de nettoyer le plancher, les cuisiniers qui font des routiers, les hamburgers, le secrétaire d'un bureau, les auteurs de publications, et tout, ont tous été la cible d'attaques passionnées parce que, selon l'expression de leurs accusateurs révoltés, ils se servent des hauts pour gagner de l'argent. Ce n'est pas le cas. Ils se servent de hauts, puis il y a un job d'en haut, puis il faut qu'ils remplissent, puis ils sont payés en conséquence. Ce n'est pas du service de 12e étape. Ou bien qu'il s'agisse aucunement de travail de 12e étape, les critiques dénonçaient comme travailleurs professionnels nos employés qui s'acquittaient souvent des tâches ingrates et que personne d'autre n'aurait pu ou voulu faire. Voilà, page 192. Il fallait donc une personne employée à plein temps pour s'occuper du local. Quand on a des salles, il y a quelqu'un, des grandes salles, bien souvent il y a plusieurs meetings. Je sais qu'en Floride, il y avait des édifices qui avaient 7 à 10 salles différentes, et qui étaient obligés d'engager du monde. Puis après chaque meeting, il y avait une personne qui allait faire le ménage là. Ce n'était pas des bénévoles, c'était des gens qui étaient payés en conséquence de ce qu'ils faisaient. Si on avait embauché un alcoolique, il ne serait que le salaire qu'il aurait fallu payer un non-alcoolique pour le même travail. Fait que souvent, c'est des alcooliques. On a une préférence aux alcooliques, mais c'est l'ouvrage qui peut être fait par des non-alcooliques. Le mouvement lui-même ne pourrait pas fonctionner sans employés permanents à la Fondation et dans les bureaux d'intergroupe, où nous ne pouvions pas engager des secrétaires non alcooliques, il nous fallait des gens capables de s'exprimer de la manière des autres. C'est certain que dans une petite localité, si on a un secrétaire à plein temps, mais il faut qu'elle soit membre des autres parce qu'elle va avoir toutes sortes d'appels qu'elle peut répondre, mais elle va être payée en conséquence que ce soit un autre secrétaire. Dans les comités, on exploitait à fond cette ligne de pensée pour réduire le salaire de ses employés qui se trouvaient dans un sens de la vertu, se disait-on, en acceptant de travailler à bon compte pour les hauts. Ce n'est pas de même que les hauts traitent les employés. On les paye un salaire raisonnable en moyenne de ce que c'est que les autres compagnies les paieraient. Page 194, dans le cœur de chaque membre des hauts, il restera sans doute toujours la crainte des gens qui viennent d'exploiter notre nom pour des fins vraiment lucratives. Il va toujours avoir des profiteurs. Moi, j'en connais des profiteurs, certains vous en connaissez aussi. Ils sont là, puis ils n'ont pas rien qu'on peut faire pour les changer. On espère qu'un jour, ils vont remédier à ça. Mais il y a toutes sortes de façons de prendre avantage du mouvement. Puis les anciens alcooliques ou les con artistes, mais ils trouvent des manières dérivées de prendre avantage de ça. On est dans le bas de la page 195. Sans trop y penser, les membres concernés ne gênent pas pour briser les animaux de façon téméraire et ainsi mieux battre le tambour en faveur de leur chère entreprise. J'ai souligné ça, mais ça n'a pas de rapport avec ça. Dans le cas, dans la page 196, dans le cas de professionnalisme, n'était pas du tout en cause. C'était l'oubli d'anonymat. On mettait en danger l'objectif unique des A et on abusait de son nom des alcooliques anonymes. Maintenant que la grande majorité des membres de notre mouvement observent la consigne de l'anonymat en public, on constate que les craintes se sont presque toutes évanouies. Nous reconnaissons qu'il ne nous est ni permis ni nécessaire de décourager les membres qui désirent s'engager à titre professionnel dans des champs plus vastes. Il y a des membres qui travaillent dans des maisons de thérapie, qui sont payés en conséquence, puis c'est bien correct. Ce n'est pas la douzième étape. Nous agissons effectivement de façon antisociale en leur interdisant. Nous ne pouvons pas revendiquer les hauts un statut d'organisme si hermétique qu'il faille garder ultra secret notre savoir et notre expérience. Les maisons de thérapie, il y en a beaucoup qui servent des dires de AA, puis on est correct avec ça. Si en sa qualité de citoyen, un membre des AA peut améliorer sa compétence et cherche de chercheur, d'éducateur, de directeur de personnel, qu'est-ce qui l'interdit? Chacun peut y gagner ou nous n'avons rien à perdre. Si moi, je travaille pour une compagnie, puis ils vont me mettre en charge des employés, bien, je peux aider beaucoup d'employés qui consomment à s'en sortir, puis je vais être rémunéré pour ça, puis c'est normal. Chacun peut y gagner, ils n'auront rien perdu. C'est vrai, certains projets auxquels nos membres se sont associés étaient parfois aussi mal conçus, mais ce fait ne change absolument rien au principe en cause. Voilà la palpitante série d'embryos qui ont finalement forgé la tradition des AA sur le refus de professionnalisme. Le travail de 12 étapes ne devrait jamais être énuméré, mais ceux qui travaillent à notre service méritent leur salaire. Tous ceux qui ont un travail à plein temps, ce n'est pas la 12e étape, ils devraient être énumérés. On va faire un petit résumé de ça. Les mouvements des alcooliques devraient toujours demeurer non professionnels, mais nos centres de service peuvent engager des employés qualifiés. En résumé, on ne doit jamais être payé pour faire la 12e étape. Mais tout travail qui peut être fait par un non-alcoolique peut et doit être rémunéré. Tout travail qui prépare la venue de la 12e étape et les dépenses sont encourues doivent être payées. Le Bureau des services généraux, le BG, paye ses comptables, ses avocats, ses secrétaires, les expéditeurs de livres. Tout le monde qui travaille là sont payés un salaire normal. Des millions de dollars par année et leur paye un juste salaire, semblable à leurs confrères qui travaillent dans d'autres industries. On offre un salaire moyen pour chaque position. Si je fais des études d'étape, de tradition, de gros livres, et que ça occasionne des frais, des photocopies, quelque chose comme ça, je peux, puis je devrais les récupérer. Si je suis RSG, je vais aux assemblées provinciales, je peux et je dois me faire payer mes dépenses. Si j'ai des dépenses que je vais pour le BSG, pour les comme RSG aux assemblées provinciales, puis tout ça, bien, je dois être payé, puis il faut que je sois payé, puis on va dire pourquoi que je devrais être payé. Je dois parce que le prochain, peut-être qu'il n'a pas les moyens, il refusa de servir. Moi, je suis RSG, je n'ai pas besoin d'argent, je vais dans les réunions, puis il me donne un montant d'argent, puis je ne le prends pas, puis je ne le prends pas parce que je me pense mal. Non, ils nous disent, prends-les. Puis si tu n'as pas besoin, redonne la 7e tradition. Mais si tu ne le prends pas, le nouveau, le prochain qui va arriver prendre ta place, lui peut-être qu'il n'a pas le moyen, qu'il est obligé de prendre cet argent-là. Fait que si tout le monde prend, ce n'est pas gênant pour personne. Puis si je n'en veux pas, je n'ai pas besoin de cet argent-là, je peux le redonner dans la 7e tradition. Je vais relire ce paragraphe-là parce que c'est important. Si je suis RSG et que je vais aux assemblées provinciales, je peux et dois me faire payer mes dépenses. Je dois parce que le prochain, peut-être qu'il n'a pas les moyens. Puis il refusera de servir pour cette raison-là. Si moi, j'en ai les moyens, je peux toujours redonner mon cachet à la 7e tradition. À tous les niveaux, il y a beaucoup de volontaires à qui on paye seulement les dépenses. Il y a beaucoup de volontaristes dans beaucoup de choses, mais si ça occasionne des dépenses supplémentaires, bien, ça doit les rembourser. Et puis, on essaye de le faire le plus possible. Puis les questions qu'ils nous demandent, à bas de la page, est-ce que je questionne toutes les dépenses sans en connaître la raison? Je devrais être membre de mon groupe, être sur le comité, puis savoir ce qui se passe. Est-ce que je parle contre ceux qui se font payer leurs dépenses? Est-ce que je connais suffisamment les dépenses prévues? Puis, combien de temps je donne à la 12e étape chaque jour ou par chaque mois? C'est bien important que j'aie du temps pour ça, puis que si je suis membre, puis je peux aller comme RSG quelque part, ça augmente coûte des dépenses, bien, je vais me faire payer pour la simple raison que le prochain, peut-être qu'il n'a pas le moyen. Et comme on l'a dit plusieurs fois, je remets mon cachet dans la 7e tradition si je n'en ai pas besoin. On va à la 9e tradition. qui nous dit comme mouvement des alcooliques. La neuvième tradition est basée sur un mouvement sans charte qu'on ne peut pas détruire. Parce qu'il n'y a pas de charte, personne ne peut poursuivre le mouvement lui-même. Comme mouvement, les alcooliques anonymes ne devraient jamais avoir de structure formelle, mais nous pouvons construire des conseils ou des comités de service directement responsables envers ceux qui le servent. Le mouvement des alcooliques anonymes n'a pas de structure, absolument rien. Mais on a été obligé de former beaucoup de structures pour que ça continue, pour préparer tout l'ouvrage de 12 étapes qu'on a fait. Il y a encore des pays qui ne connaissent pas, qui sont en train de traduire des livres pour aller là. Et ça fait toute partie des dépenses qui sont occasionnées pour qu'on en vienne à faire la 12e étape dans ces pays-là. On va les lire dans le langage du cœur, la page 94-95. Le moins d'organisation possible. Voilà notre grand idéal. Pas de cotisation, pas de droit d'entrée, pas de règles imposées à personne. Un alcoolique aide un autre à s'établir. Voilà essentiellement ce que nous désirons le plus. C'est ça qu'on veut. Mais ça l'occasionne plus que ça parce que notre mouvement se développe de plus en plus. Quelle est la meilleure manière d'atteindre cet idéal si simple? C'est une question que nous nous posons souvent. Nous avons, par exemple, le type de membre qui favorise la simplicité. Terrifié à l'idée de toute organisation, il trouve que le mouvement devient trop compliqué. Selon lui, l'argent est une source de problème. Les comités engendrent des discordes, les élections entraînent des ambitions politiques. Les salaires mènent aux professionnalistes et les clubs servent à doloter les rejeteurs. Revenons, dit-il, à notre café et à nos gâteaux, au coin du feu. Si un alcoolique vient vers nous, occupez-nous-en. Cela suffit. La simplicité. Voilà tout ce qu'il nous faut, mais ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. À l'opposé de cette vision simple et heureuse, il y a le type de promoteur. Il rebuchait les terres. Si on laisse ça faire, il rêve de millions pour les ivrognes, des grands hôpitaux à Hall, une armée d'organisateurs énumérés, d'experts en publicité avec un attirail dernier cri pour le son de texte. Oui, monsieur, va-t-il. Avec mon plan de 2 ans, nous aurions des millions de membres en 1950. C'est pas de même que ça marche. Personnellement, je suis content que nous ayons à la fois des conservateurs et des enthousiastes, car ils ont beaucoup à nous apprendre. Le conservateur veillera sûrement à ce que le mouvement ne devienne jamais trop organisé. Par contre, le promoteur continuera de nous rappeler notre énorme devoir envers le nouveau et envers des millions d'alcooliques du monde entier qui attendent encore la bonne nouvelle. Comme vous dites, je pense qu'on est dans 185 pays, puis il y a 245 pays dans le monde. Ça veut dire encore 50-60 pays qu'on n'est même pas là. Il faut préparer les brochures, les pamphlets, le gros livre pour être capable d'aller aider à ces pays-là qui n'ont même pas entendu nous parler de nous autres encore. De toute évidence, nous allons choisir une solution intermédiaire, solide et sûre. Les A se sont toujours vivement opposés à l'idée d'une organisation globale. Paradoxalement, ils ont toujours fortement insisté pour que certains services spéciaux soient organisés, surtout qui sont absolument nécessaires au travail de 12e étape, efficace et abondant, comme dans ces pays-là. Par exemple, lorsqu'un groupe élit un secrétaire ou un comité, lorsque les membres d'une région forment un comité d'intergroupe, lorsque nous créons une fondation, un bureau général ou une revue, nous nous organisons pour pouvoir offrir des services. Notre livre, nos brochures, nos salles de réunion, nos clubs, nos banquets et nos assemblées régionales sont aussi des services. Nous ne pouvons pas non plus nous en remettre au seul hasard pour nouer les bonnes relations avec les hôpitaux et pour parrainer les nouveaux et pour avoir des bonnes relations publiques. Il faut nommer des gens pour s'occuper de tout cela et parfois même les payer. C'est ainsi que nous obtenons des services spéciaux. Il y a toutes sortes d'organisations à travers le monde pour faire connaître mieux le programme et aider à tous ceux qui peuvent aller faire de la 12e étape. Aucun de ces services spéciaux n'a donné un caractère organisationnel ou professionnel à notre activité spirituelle et sociale, à ce grand courant qui circule entre les A. Notre programme de rétablissement en a pourtant énormément bénéficié. Malgré leur importance, ces services sont minimes comparativement à notre principal travail. Pour ces données, ces distinctions sont comprises, plus nous pouvons oublier notre peur d'une organisation néfaste ou d'une richesse dangereuse. En tant que mouvement, nous demeurons confortablement pauvres car nos dépenses pour les services sont minimes comparées à ce que c'est qu'on. Si ça coûte 2 millions par mois, on est 2 millions de personnes. Si on donne une pièce chaque, là, ça va tout s'arranger. Fait que c'est minime en réalité. Rassuré, nous continuons sans nul doute d'améliorer et d'étendre les liens vitaux de nos services spéciaux pour transmettre toujours mieux notre message à d'autres, de créer une association meilleure et plus grande, ici Dieu le veut, d'assurer aux alcooliques anonymes une longue vie et une parfaite unité. C'est là-dedans. Après ça, on va aller 12 par 12, 197 à 201. Le Big Book, la page 636. Je vais aller voir dans le Big Book ce qu'ils nous disent en deuxième étape. Page 630. Bon, je pense qu'on va juste lire ce qui est écrit dans le gros livre, puis on va. Puis il n'y a pas lire ce qui est dans le 12 par 12. Là, on n'aura pas le temps. Chaque groupe DA a besoin d'une structure minimale. La formule de la rotation à la direction est la meilleure. Partout, nous suggère pas faire plus qu'un terme de 2 ans. Un petit groupe peut élire son secrétaire, un groupe considérable désignera un comité rotatif, et les groupes d'une vaste région métropolitaine formeront un comité central ou un intergroupe qui décidera souvent l'embauche d'un secrétaire à plein temps. Les administrateurs du Conseil des services généraux constituent en fait notre comité de services généraux DA. Ils sont les gardiens de nos traditions et les dépositaires des contributions volontaires des membres. Contributions qui servent à supporter au support financier du Bureau des services généraux DA. Juste pour les déjà, quand le BSG, il y a plusieurs années, là, juste pour compter l'argent, pour attribuer l'argent à différentes choses, ça coûtait près de 200 000 $. Je suis certain qu'aujourd'hui, c'est plus que ça. Fait que si vous faites des cotations, si vous envoyez de l'argent au BSG, bien, dites-le de mettre ça dans le fonds général. Plus qu'il y a de l'argent dans les fonds généraux, après ça, ils peuvent le distribuer s'ils veulent. Mais si on donne de l'argent pour un tel fonds, tel fonds, tel fonds, ça complique les choses encore plus. Ça coûte encore plus cher. Ça veut dire que notre argent a moins de valeur. OK. Les groupes leur confèrent l'autorité et s'occupent de l'ensemble de nos relations publiques et d'assurer l'intégrité de notre magazine principal qui est le E-Grimpin. Aujourd'hui, on a la vigne, et c'est aussi là. Tous ces représentants doivent être animés d'un esprit de service parce que chez A, le vrai chef ne sont que des serviteurs de confiance et d'expérience pour l'ensemble du mouvement. Leur titre ne leur confère aucune autorité véritable. Ils ne gouvernent pas. Leurs utilités dérivent du respect universel qui leur a été accordé. Fait qu'il faut remplir toutes les tâches. Il faut être certain qu'on est qualifié là-dedans. Pas prendre une tâche sans savoir ce qu'on entend, parce que ce n'est pas un titre de noblesse, c'est un titre de service. Je faut être certain que je suis capable de servir à ce niveau-là. Puis tant que je ne le suis pas, bien, je peux toujours faire du café, je peux toujours rendre service, ouvrir les portes, nettoyer les salles ou faire tout ce qu'il y a à faire au début, jusqu'à temps que je comprenne un peu comment le mouvement marche, puis que je peux aller plus loin là-dedans. En résumé, c'est un mouvement sans charte, puis qu'on ne peut pas détruire, on l'a dit au début, et puis parce qu'il n'y a pas, le mouvement en tant que tel, il n'y a pas de charte, fait qu'on ne peut pas les saisir hors. Le mouvement comme tel ne devrait jamais avoir de structure, mais il peut former des comités de service, comme des groupes, des districts, des régions. Le mouvement, c'est strictement 2 personnes qui se rencontrent avec du café pour parler d'alcoolisme ou de rétablissement. Tout le reste, c'est des structures que l'on a formées, des directions à prendre pour le bien-être du mouvement. C'est toutes des choses qui ont été formées. Or, c'est le mouvement, c'est 2 personnes qui parlent de rétablissement ensemble. C'est juste ça, le mouvement. On a formé beaucoup de comités, le BAG, on a 1 million de comités qui ont été formés par la demande, parce que plus qu'il y a de monde, plus ça prend du personnel pour conférer ça. Tout le reste des structures qu'on a formées, des directions à prendre pour le bien-être du mouvement n'ayant aucune structure, le mouvement lui-même ne peut pas être poursuivi en cours, mais ces structures peuvent être poursuivies, puis qui peuvent poursuivre. Il y a pour but tout le temps de jamais poursuivre, mais on a vu dans le passé des raisons ou des exceptions à cette règle-là. À moins de suivre avec autant d'applications que possible la méthode des 12 étapes que nous leur proposons en but de se rétablir, les membres de AA signent à toute fin pratique leurs arrêts de mort. C'est le résultat de l'infidélité personnelle à ces principes. Si on ne fait pas les étapes pour commencer, parce qu'on va aller dans les traditions, et si on ne fait pas ça, on signe notre arrêt de mort. On ne peut pas être joyeux, heureux et libre sans être rétabli. Puis quand on est rétabli, ça devra se faire en dedans de la première année, je peux commencer à participer dans le mouvement lui-même. À moins que le groupe se conforme aux 12 traditions, le groupe peut se détériorer et périr. J'en ai vu en masse faire ça. Il est clair que nous ne devons jamais créer des conseils qui nous gouvernent, mais il est évident que nous aurons toujours besoin d'autorité, d'autoriser des employés à nous servir. On n'a pas de boss, on a des serviteurs qu'on les autorise à nous servir. C'est ça qui fait toute la différence. Dans cet esprit de service que nous élisons, un comité informel rotatif dans toutes les hauts, à tous les niveaux, au niveau du groupe, puis n'importe quel niveau, il nous suggère de faire la rotation. Et puis, s'il y a des postes qui ne peuvent pas être remplis, on ne les remplit pas. On n'est pas obligé d'avoir rempli tous les postes. Mais si on met quelqu'un d'un poste, on va être certain qu'il est capable de remplir ce poste. Mais pour ça, il faut qu'il ait le temps d'avoir compris ses étapes, puis on va comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce poste-là. On a un paquet de petites questions, là. Suis-je patient avec les membres? Okay. Est-ce que j'essaye d'être le boss? Est-ce que je fais la rotation? Est-ce que j'agis responsablement? Puis est-ce que je participe à tout l'échelon des A, à tout l'organigramme? C'est important que je le sache comment ça marche. C'est important que je le comprenne. Après ça, je peux aller servir à tous ces niveaux-là. Puis il n'y a pas de limite dans où partout où je peux aller. Puis la base, c'est tout le temps un alcoolique qui parle à un autre. Si on ne peut pas changer ça. Fait, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez bien, ben, on va finir avec la prière de sérénité. Après ça, ben, pour tous ceux qui le veulent, ben, ils pourront faire des commentaires ou demander des questions. Mon Dieu, donnez-moi le... Je ne me rappelle plus de ma prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Je vous remercie d'être patient avec moi. Je vous remercie d'être là. Puis lâchez-moi pas, moi j'ai besoin de vous autres.